Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. C'est un autre jour. Alors, le matin est très beau et très ensoleillé à Puebla. Nous sommes toujours à Puebla. Alors, la nuit fut bonne. Bon, je n'ai pas eu froid. Et assez tôt, le matin, je suis debout. Et nous prenons le temps de voir les quelques personnes qui habitent cette maison. Et là, nous allons retrouver le fameux prêtre qui vit à Mexico et qui nous disait « Allez à Puebla ». Alors, nous sommes étonnés de le retrouver là. Donc, il nous accueille, il est tout content de nous revoir. Et on lui dit, c'est grâce à vous si on est ici. On voit aussi les autres prêtres de la maison. Il y a aussi un jeune qui est là en formation, un stagiaire, qui se prépare à devenir prêtre. Alors, c'est une fraternité où il y a des jeunes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ces prêtres-là ne sont pas très âgés non plus. Ils sont assez jeunes. Bon, autour de 5 ans, de la quarantaine, trentaine. Le père Christian dont je vous ai parlé, il a 35 ans. Donc, le stagiaire en a 30. Alors, on est dans une dynamique de fraternité où les personnes, les générations sont là. C'est tellement ce qui nous manque ici. C'est ce qui nous manque au Québec. C'est ce qui nous manque. Il y a tellement un fossé entre les générations. Alors, on en souffre. Vous en souffrez, vous aussi. Nous en souffrons, nous aussi. Alors, il y a tout un palier, je dirais, d'absence. Ce sont des unités. Nous, ici, des unités, les prêtres un peu plus jeunes. Des fois, on dit, vous êtes jeune. Et le prêtre a 55 ans, et on aura 60. On est encore jeune à 60 ans. On est jeune à 65. Alors, c'est pas le cas là-bas. C'est pas le cas. Il y a un dynamisme et il y a les générations qui s'interpellent. Donc, c'est normal. Je dis, c'est la normalité des choses, de la vie. Et c'est ce dont nous souffrons ici parce que nous, il y a un écart trop grand entre les générations. On le voit au sein des congrégations religieuses, des communautés religieuses. Il n'y en a plus, il n'y a plus personne qui entre. Alors, il y a une religieuse l'autre jour qui voulait me faire rire. Elle m'a dit, vous savez, on nous demandait, est-ce que vous avez des aspirantes? Elle arrive à près de 80 ans, là. Est-ce que vous avez des aspirantes? Alors, elle a répondu, non, nous n'avons que des expirantes. Alors, on a éclaté de rire, évidemment, c'était drôle, parce que, c'est la réalité. C'est la réalité du Québec. Toutes les congrégations religieuses sont aux portes des infirmeries. C'est notre contexte. Et ça demeure difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour ces congrégations-là aussi, qui ne voient pas arriver les autres. Donc, il y a une page qui est en train de se tourner. Ce sera un définitif. Il y a une page qui est en train de s'écrire qu'on ne voit pas. On ne voit pas de façon précise. On espère, on est dans l'espérance. Évidemment, il y en a d'autres qui viennent nous aider parce qu'heureusement, l'Église n'est pas liée aux nations, au pays. Quelqu'un d'un autre pays peut très bien venir ici, évangéliser les gens d'ici. Comme nous avons fait, nous, il y a plus de 100 ans, 150 ans, les Québécois et les Canadiens étaient des missionnaires extraordinaires un peu partout dans le monde. C'est une autre dynamique. Alors, il faut s'attendre certainement que dans les prochaines décennies, les prochains 100 ans, il y aura des gens qui viendront d'ailleurs pour évangéliser les Québécois. C'est déjà commencé. C'est ainsi. Donc, le matin, c'est la visite en matinée de Chuchula. Et c'est le jeune père Sergio qui doit aller en mission, qui va nous y conduire. Nous traversons cette ville aux multiples couleurs. C'est magnifique, c'est très beau. C'est sobre, c'est modeste, c'est pas de la richesse là. Mais c'est beau. C'est beau quand c'est coloré, quand c'est propre. Et là, nous allons monter vers une chapelle qui est située en haut d'une ancienne pyramide. On a placé en haut de cette pyramide un lieu de culte chrétien qui était jadis destiné aux divinités païennes. L'air est frais. Nous sommes bien en hauteur. Alors je cherche mon souffle. Nous prenons le temps de prier dans cette chapelle qui est dédiée à Marie. Et lors de la montée, on a rencontré un groupe de personnes qui descendaient en procession. Ils étaient montés plus tôt à cette petite chapelle, alors ils descendaient. Nous, on est en train de monter. Et là, c'est une procession avec la Vierge qui est portée par des gens. Les gens sont costumés dans leur tradition et pour signifier leur contentement, eh bien, ce sont des feux d'artifice qui éclatent comme des coups de canon. C'est vraiment des coups de canon qui nous percent les oreilles. On est étonné par ce bruit et tout le monde l'entend là et tout le monde l'entend d'assez loin. Alors c'est la manière de traduire leur dévotion. Ici et là, des gens se placent aussi dans la montée pour étaler leurs produits à vendre. Alors on vend toutes sortes de petites choses. On vend des choses qu'on a fait à la main, des dentelles, on peut vendre des sculptures, on vend des pierres, on vend toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires. Donc les gens se placent d'un côté comme de l'autre et on regarde, faut pas trop regarder non plus parce que quand on regarde, on manifeste un certain intérêt. Alors quand on manifeste un certain intérêt, bien ça veut dire que on pourrait être intéressé. Là, c'est encore l'histoire des yeux, le regard. Alors, on regarde pas trop. Parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps d'acheter et on ne veut pas acheter nécessairement tout le temps. Heureusement. Bon. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur.
Nous avons déroulé le grand tapis vert au-dessus de maman, dit-il à la dame de la montagne. Elle semblait toujours effrayée. Cette atmosphère de lourdeur commençait à l'exaspérer. Mais quelque chose le retenait. Une sorte de respect devant ce qu'il ne comprenait pas. Parfois la révolte grondait. Il trouvait injuste qu'un tel sort soit réservé à celle qui était montée toute sa vie et qui avait tant donné aux autres. Soudain, elle se mit à parler.
« Jean, il me reste 5 nuits à descendre. »
5 nuits ? Où sont passées les 2 autres ? N'y en a-t-il pas 7, comme les marches ?
Comme les marches, 7.
Comment avait-elle pu sauter de nuit ? Il savait bien qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Lentement, elle poursuivit.
Nuit noire est descendue depuis longtemps. Mes yeux foudroyés. Et ces nuits à désirer la fin. M'ont fait descendre dans la mort du corps. Cette mort est physique, Jean. Elle nous tue tout entier.
Petit Jean respirait mal. Elle ajouta.
Jamais plus je n'aurai comme avant mon regard bleu. Ma nuit est physiquement consommée. Désormais, je verrai dans le noir.
Un nouveau poids de révolte émergea du cœur de Petit-Jean, pris avec ses éternels pourquoi. Il avait envie de maudire quelque chose ou quelqu'un. Il ne savait pas. Il poursuivit en disant
« Ne crois pas que je déteste mes yeux morts. J'apprends à voir avec. Voilà la raison de mes tremblements. Je me déshabitue pour m'habituer. »
Petit-Jean était furieux.
« Mais pourquoi toi ?» lui dit-il.
« Nous l'apprendrons, » fit-elle.
Ces paroles l'avaient épuisé. Oui, la mort du corps, comme elle venait si bien de la décrire, s'était emparée de tout son être. Quelle déchéance de la voir ainsi. Elle, si pleine de vigueur jadis, avec son perçant regard bleu. Petit-Jean laissait libre cours à ses élans de révolte. Elle ne méritait pas ce qui lui arrivait, et ses nuits étaient injustes pour elle. Il avait fallu toute une vie d'efforts et de peines pour s'ouvrir à un peu de lumière. Non, cette obscurité dans laquelle elle descendait maintenant devait être une vengeance qui venait de quelque part. Harassée par ce débat intérieur, l'idée lui vint de retourner près de la vieille grange. Il n'avait pas envie que lui soit racontée la seconde nuit, déjà descendue. La chaleur des vrais étés était revenue. Les gens étaient heureux. La mémoire du temps qu'il a fait ne dure pas. À peine vient-il de passer qu'il faut des bouts de papier sur lesquels on inscrira les dates et les jours pour que les savantes statistiques nous rappellent si l'on a atteint ou non le record. C'est comme si d'année en année, on s'attendait à plus de chaleur ou de froid. Le petit village était revenu à la normale. On en avait profité pour réparer, peinturer, faire les travaux que la négligence et la paresse avaient laissés de côté. Il y a souvent pire que les ouragans pour détruire à petit feu. Mais on oublie ces petits riens qui détériorent lentement mais vraiment, tandis qu'on remarque ce qui s'effondre ou se casse brusquement. On ne le disait pas, mais plusieurs pensaient en eux-mêmes que l'ouragan avait entraîné un bien beau ménage. Il y a de ces coups de balai incommodants qui nettoient mieux qu'on ne le croit. Les potins journaliers ne faisaient plus état de la dame de la montagne, pas plus que des incidents fâcheux qui avaient suscité chez eux cette étrange violence contre Petit-Jean. Monsieur le maire avait eu l'idée d'organiser une sorte de séance de pardon pour le curé. Il avait fait chercher les mécréants qui avaient juré contre lui et les avait sommés de se rendre à la messe du dimanche. Ce qui avait été fait publiquement devait être réparé publiquement. Gauchement, après la cérémonie, monsieur le maire avait poussé devant celui qui avait giflé le curé. L'assemblée, cette fois-ci, suivait religieusement ce que personne n'aurait aimé faire à ce moment précis. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.